Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Beaucoup connaissent sa mort, terrible, hein, puisqu'il a été assassiné. Peu connaissent sa vie et surtout son œuvre. Une œuvre qui divise, à l'image de ce créateur étonnant qui n'aimait visiblement pas vivre avec son temps. Stéphane Bern nous raconte Pier Paolo Pasolini.
Nous sommes en Italie au printemps 1968. Comme en France, le monde étudiant manifeste son désir de liberté. Il veut s'affranchir du carcan universitaire et social d'un monde qui ne bouge pas assez vite. À Rome, en ce mois de juin, les affrontements entre la jeunesse et la police sont particulièrement violents. Un homme prend alors sa plume. Cet homme, c'est Pier Paolo Pasolini, artiste anticonformiste, révolutionnaire, qui fut un temps proche du Parti communiste. Comment le cinéaste, poète, écrivain prend-il part à cet inévitable mouvement d'émancipation? Comment s'adresse-t-il à cette jeunesse? En ces termes, vous êtes une nouvelle espèce d'apolitique idéaliste. Je lis dans vos barbes d'impuissantes ambitions. Vous êtes en retard, très cher. Vous avez des gueules de fils à papa. Je vous hais, comme je hais vos papas. Extraits choisis qui traduisent la virulence iconoclaste du propos de Pasolini, même s'il reconnaît des accords de fond avec le mouvement étudiant. C'est que l'artiste érige la contestation et le refus des conventions en une sorte de droiture. Seule possibilité de lutter contre les maux de son époque. Et c'est peu dire qu'il y en eut beaucoup. Et d'abord le fascisme. Pasolini est né en 1922, l'année où Mussolini prend le pouvoir en Italie. Dès son enfance et sa jeunesse à Bologne, dans un monde quadrillé par l'idéologie totalitaire, il se sent à l'étroit, même à l'université, et s'évade dans la poésie. La Deuxième Guerre mondiale le mène à Casarsa, le village maternel au cœur de la région du Frioul, au nord de l'Italie. Loin de la ville asphyxiée et de contrainte, il s'épanouit dans cette campagne innocente. Il y découvre aussi le frioulan, dialecte local à la mélodie infinie dans lequel il écrit de nombreux poèmes. Mais la guerre reste la guerre, avec son cortège de souffrances, dont la perte de son frère Guido, qui meurt d'avoir lutté contre les fascistes. Dans l'Italie qui se reconstruit sans le fascisme, Pasolini a acquis une conscience politique et adhéré au Parti communiste tout en enseignant la littérature. Mais en 1949, il est accusé de détournement de mineurs à une époque où il est bien commode d'amalgamer sciemment homosexualité et pédophilie. Bien qu'innocenté, il est exclu de l'enseignement et du Parti communiste et forcé de quitter le Frioul pour s'installer dans la banlieue de Rome. C'est là, dans ces quartiers miséreux peuplés de ce qu'il appelle le sous-prolétariat, paysans arrachés à leurs terres par l'exode rural, qu'engendre la modernité. Ouvriers, petits voleurs et prostituées, c'est dans ce monde oublié des puissants que grandit sa rage vitale qui s'exprimera dans l'art. Ses premiers romans, Ragazzi et Une vie violente, sont sulfureux. Il s'inspire de la réalité crue qui l'entoure et lui valent ses premiers procès pour obscénité ou pornographie. Et ce ne seront pas les derniers. Songez qu'entre 1950 et sa mort, en 1975, Pasolini sera traîné à 33 reprises devant les tribunaux pour les motifs les plus variés, de l'atteinte aux bonnes mœurs à l'apologie du crime, j'en passe et des pires. Dans ses romans, sa poésie, puis ses films à partir des années 60, Pasolini se bat désormais contre, on peut le dire ainsi, la modernité. Depuis qu'il fut arraché à son Frioul, il porte le deuil du vieux monde ravagé par le fascisme, puis par la société qui se met en place, celle du néo-capitalisme, celle de la consommation. La tournure de cette nouvelle ère n'est pas pour lui une simple évolution, mais une rupture radicale, une catastrophe. Il sera toute sa vie nostalgique du monde pré-industriel et paysan que d'aucuns lui reprocheront d'idéaliser. C'est que la période des Trente Glorieuses amène des bouleversements peut-être encore plus radicaux en Italie qu'en France. On part de plus loin, dans un pays à l'unité récente, où les langues régionales, pourtant interdites sous le fascisme, sont très prégnantes, où les disparités locales sont extrêmes. Tout cela s'efface dans l'uniformisation du consumérisme, plus enveloppante encore que celle du totalitarisme politique. Le paysan en vient à désirer la même chose que le bourgeois. Le développement sans progrès n'offre qu'un hédonisme exsangue de passion. Pour Pasolini, la société de consommation noie tout. Il la décrit comme une fièvre d'obéissance à un monde nouveau. Même la libération sexuelle de son époque s'y délite. Injonction, elle tombe dans un conformisme hétérosexuel, le même dont il a personnellement mis du temps à s'extirper dans sa jeunesse pour vivre pleinement ses désirs. Mais pas de défaitisme. Je pleure un monde mort, mais moi qui le pleure, je ne suis pas mort, écrit-il. Signe qu'il n'est pas question de s'abandonner à la nostalgie, mais de contester, de changer, de renverser cette Italie coincée entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne. Il y a bien des contestations, un anticonformiste, celui des étudiants, qu'il vilipende par exemple, mais Pasolini trouve cela fade. La sous-culture du pouvoir, écrit-il, a absorbé la sous-culture de l'opposition et l'a fait sienne avec une diabolique habileté. Lui qui est pourtant athée, le christianisme, alors toujours religion d'État en Italie, avec lequel il entretient une relation complexe, lui semble être une solution intéressante, mais plutôt dans le sens d'une église archaïque, loin des rapports de domination. C'est le mystique, le sacré qui l'attire. Il mettra d'ailleurs en image en 1964 l'évangile selon saint Matthieu. Les autorités catholiques accueilleront dans un premier temps assez froidement le travail de Pasolini, on s'en doute, lui qui en 1959 termina un poème adressé au pape en disant « Il n'y eut pas plus grand pécheur que toi ». Pasolini le dit « Scandaliser est un droit » et il n'hésite pas à en user. Certains de ces scandales seront retentissants, comme celui engendré par le film Théorème en 1968, dans lequel un mystérieux et faible sème le trouble dans une famille bourgeoise en couchant avec chacun des membres. L'œuvre qui suscite le plus de réprobation est certainement son dernier film, Salaud ou les 120 journées de Sodome, transposition à l'Italie fasciste d'un récit du Marquis de Sade. La cruauté, la violence, la moralité y sont poussées à l'extrême, comme s'il avait voulu secouer encore plus fort son époque apathique. Mais Pasolini ne verra rien des réactions engendrées par son film. Il décède en 1975, 2 mois avant sa sortie, battu à mort sur un terrain vague, dans des conditions mystérieuses, dont il semble désormais que le fond soit politique, dans le marasme des années de plomb qui violentèrent l'Italie des années 70. Cette violence, celle des coups, celle du passé disparu, celle de la domination des hommes sur les autres, Pasolini l'a sentie et montrée, car elle était celle de son temps. Et c'est bien pour cela qu'il la détestait. Il s'est toujours évertué à refuser son époque afin de pouvoir la changer. Comme il le dit lui-même dans un entretien effectué quelques heures seulement avant sa mort, le refus a toujours constitué un rôle essentiel. Le petit nombre d'hommes qui ont fait l'histoire sont ceux qui ont dit non.
Europe 1, historiquement vôtre.